Vous écoutez RFI, les 7h à Goma, 6h à Paris.
RFI Matin.
Et 5h en temps universel, le journal. Bonjour Jeanne Bartoli. Et
bonjour Andréane, bonjour à tous.
Et elle a eu une revanche politique aux États-Unis.
Et elle prend la forme d'une purge au sein du ministère de la Justice. Une douzaine de fonctionnaires impliqués dans les poursuites pénales fédérales contre Donald Trump pour l'assaut du Capitole sont licenciés. Nous sommes à Washington dans ce journal. Donald Trump qui ordonne par ailleurs la construction d'un bouclier antimissile de type dôme de fer aux États-Unis. Vous l'entendrez. Dans ce journal aussi, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l'ONU aujourd'hui sur la situation à Goma dans l'est de la RDC. Des éléments du M23 et des soldats rwandais sont positionnés dans Goma. On fait le point dans ce journal. À suivre également l'Union européenne qui s'apprête à lever une partie des sanctions économiques qui frappent la Syrie. Les rescapés d'Auschwitz qui lancent un appel contre l'antisémitisme aux cérémonies de la libération du camp nazi. C'était il y a 80 ans. Et puis on parlera de sport. Le tirage au sort de la CAN a eu lieu hier soir parmi les grosses affiches Sénégal-RDC et Cameroun-Côte d'Ivoire.
Aux États-Unis, des responsables du ministère de la Justice limogés par l'administration Trump.
Et pas n'importe quel responsable, puisqu'il s'agit de ceux impliqués dans les poursuites pénales fédérales contre Donald Trump. Poursuites abandonnées à la suite de son élection en novembre. Le procureur spécial qui avait instruit les deux procédures fédérales, Jack Smith, avait lui quitté le ministère de la Justice 10 jours avant l'investiture de Donald Trump. Une douzaine de fonctionnaires au total sont aujourd'hui priés de faire leur valise. À Washington, Guillaume Nodin.
Donald Trump n'a jamais fait mystère de sa volonté de reprendre en main le ministère dont il estime qu'il l'a poursuivi et harcelé entre ses deux mandats. Cela commence manifestement avant même la confirmation de l'ancienne procureure de Floride, Pam Bondi, au poste de ministre. On ne connaît pas les noms des procureurs priés de faire leur bagage, ni même leur nombre. Tout juste sait-on qu'ils sont plus d'une douzaine. Ce qui leur est reproché, c'est d'avoir travaillé sous les ordres de Jack Smith, procureur indépendant nommé par l'ancien ministre démocrate Merrick Garland, dans ses enquêtes concernant le nouveau président. Le porte-parole qui s'exprime au nom du ministre intérimaire ne le cache d'ailleurs pas. Ils ont joué un rôle significatif dans les poursuites contre Donald Trump et il ne leur fait pas confiance pour mettre en place son programme. Sauf qu'en principe, ce sont des employés qui sont protégés par leur statut de fonctionnaire et qui ne rentrent pas dans la liste des postes politiques changeant avec le président. Ils pourraient donc contester devant les tribunaux leur renvoi. Quant à Jack Smith, il a pris les devants en démissionnant avant l'arrivée de la nouvelle équipe, mais il n'est pas à l'abri de poursuites de son ancien employeur. Guillaume Nolin, Washington. RFI.
Donald Trump qui poursuit sa politique de décret à tout va depuis son investiture. Dernière en date hier soir, le président américain a ordonné la construction d'un bouclier antimissile de type dôme de fer pour protéger officiellement les États-Unis. Nous devons commencer immédiatement, a déclaré Donald Trump devant des élus républicains réunis en Floride.
Notre nouveau secrétaire à la défense, Pete Hegseth, va être formidable. Il est ce dont nous avons besoin pour commencer immédiatement la construction d'un bouclier antimissile ultra-moderne, le dôme de fer, qui sera en mesure de protéger les Américains. Vous savez, nous protégeons les autres pays, mais nous ne nous protégeons pas nous-mêmes. Et lorsque Ronald Reagan a voulu le faire, il y a de nombreuses années, nous n'avions pas la technologie. C'était un concept, mais nous ne l'avions pas. Aujourd'hui, nous disposons d'une technologie phénoménale. On le voit avec Israël, avec plus de 319 roquettes. Ils les ont détruites presque toutes. Je pense donc que les États-Unis y ont droit et que tout sera fabriqué ici, aux États-Unis, à 100%.
Donald Trump, le président américain, qui a également signé ces dernières heures un décret pour, je cite, bannir de l'armée américaine ce qu'il a qualifié d'idéologie transgenre.
Les États-Unis qui condamnent l'assaut du M23 sur Goma.
Et qui réaffirment par la voix de Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, la souveraineté de la République démocratique du Congo, alors même que des affrontements se déroulaient hier dans la ville de Goma, plus grande ville de l'est de la RDC, entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé du M23, alliés à des troupes rwandaises. Selon les bilans de plusieurs hôpitaux obtenus par l'agence France Presse, il y a au moins 17 morts et près de 370 blessés. Selon nos informations, après une nuit plutôt calme, des tirs sont de nouveau rapportés ce matin, notamment près de l'aéroport de Goma. Ce soir, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à nouveau à New York. Hier, le secrétaire adjoint aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a redit qu'un engagement continu du Conseil sur le dossier était extrêmement important, et ce alors que la force onusienne de la MONUSCO en RDC évolue en fonction des changements de dynamique sur le terrain. Précision, Karine Auton.
Pour Jean-Pierre Lacroix, c'est l'équipement massif qui a permis aux soldats rwandais et aux miliciens du M23 d'effectuer des avancées majeures hier à Goma. Il a plus de difficultés à évaluer combien d'hommes exactement ont pénétré dans la ville. Les casques bleus ont dû mettre en sécurité les 1700 civils de la MONUSCO. Certains ont été transférés à Kinshasa, d'autres sur une base en Ouganda. Jean-Pierre Lacroix.
Les priorités sont d'abord de protéger nos collègues des Nations Unies, protéger également les différentes installations, les enceintes des Nations Unies. Il y a de très très nombreuses personnes qui ont trouvé refuge dans les différentes installations, les différentes enceintes de la MONUSCO. À la fois des civils, mais aussi des combattants des armées, nous avons, conformité avec le droit international humanitaire, la responsabilité de protéger ces personnes et de la faire peser sur la MONUSCO une très forte pression.
En plus de pousser le Conseil de sécurité à se saisir pleinement du dossier congolais, l'ONU a applaudi l'initiative de la communauté de l'Afrique de l'Est de faire se rencontrer les présidents Tshisekedi et Kagame demain. Karine Hutton, New York, RFI.
Une marée humaine a regagné hier le nord de la bande de Gaza.
Après un compromis de dernière minute entre Israël et le Hamas qui permet le retour des déplacés gazaouis. Selon le Hamas, 300 000 déplacés sont rentrés hier dans le nord du territoire. Le gouvernement israélien a par ailleurs annoncé que 8 des 28 otages israéliens qui doivent encore être libérés par le Hamas étaient décédés. Pour l'instant, on ne sait pas de quels otages il s'agit.
L'Union européenne s'apprête à lever une partie des sanctions économiques frappant la Syrie.
Et près de deux mois après la chute de Bachar al-Assad, les Européens se sont mis d'accord pour suspendre les mesures frappant les secteurs des infrastructures, les routes et l'énergie ou encore les banques. Nouvelle évidemment bien accueillie par les nouvelles autorités syriennes dont c'était la condition impérative pour donner une chance au pays. L'Union Européenne qui fixe également des conditions à cette levée de sanctions, Abla Jounaïdi.
Mise en place en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad, les sanctions européennes avaient été adoptées à l'instigation de la France et du Royaume-Uni au Conseil de sécurité de l'ONU. Après la chute du régime Assad, les appels en Syrie se sont multipliés pour réclamer leur levée. Le pays est économiquement exsangue, coupé des marchés financiers mondiaux, ses infrastructures détruites par la guerre. La population à plus de 90% vit sous le seuil de pauvreté. Les secteurs bancaires, ceux de l'énergie et des transports, jugés les plus essentiels à la reconstruction, seront les premiers concernés par la levée des sanctions. Mais cela ne se fera pas sans conditions, précise Kaya Kallas, la haute représentante de l'UE.
Cela pourrait stimuler l'économie syrienne et aider le pays à se remettre sur pied. Mais si nous voulons agir vite, nous nous tenons également prêts à revenir en arrière si la situation se dégrade. En parallèle, nous allons aussi augmenter l'aide humanitaire et l'aide à la reconstruction.
L'UE se donne le temps de voir si le gouvernement récemment nommé mène à bien une transition inclusive. Côté américain, on n'en est pas là. Juste avant de quitter le pouvoir, Joe Biden avait levé pour 6 mois les restrictions permettant de vendre de l'énergie à Damas. Mais le gros des sanctions américaines reste en place. La Syrie reste par exemple sur la liste des pays soutien au terrorisme pour Washington.
Et les précisions d'Abla Jounaïdi du service international d'RFI.
Ils ont dénoncé hier la montée de l'antisémitisme dans le monde.
Les derniers rescapés du camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz, ils étaient une cinquantaine hier à participer à la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp par l'armée rouge. Notre correspondant en Pologne, Adrien Sarla, a suivi la cérémonie.
Sous la tente aux dimensions hors normes dressée à l'entrée du camp de Birkenau, certains des 50 survivants portent des écharpes à rayures bleues et blanches, une référence à leurs anciens uniformes de prisonniers.
Dans le monde d'aujourd'hui, on assiste à une grande montée de l'antisémitisme. Ce même antisémitisme qui a mené à l'Holocauste.
Après avoir raconté sa captivité de 7 mois à Auschwitz lorsqu'il avait 24 ans, le journaliste et historien polonais Marian Tumski a exprimé ses craintes de voir l'histoire se répéter aujourd'hui. Comme le sien, les discours des 3 autres rescapés ont pris une tournure très politique. Thomas Friedman a vu l'armée rouge entrer dans Auschwitz alors qu'elle se cachait entre les cadavres de l'hôpital du camp avec sa mère. Elle a profité de sa tribune lundi pour évoquer le droit à exister de l'État d'Israël.
On a tous le devoir, non seulement de se souvenir, ce qui est très important, mais aussi de prévenir et d'enseigner que la haine entraîne la haine. En réponse, notre revanche a été de construire un État juif fort et d'y élever nos familles en paix.
Après une minute de silence, la cérémonie de 2 heures s'est achevée par une prière. Les derniers rescapés ont déposé des bougies et des pierres en l'honneur des victimes de la barbarie nazie. Adrien Salah, Auschwitz, pour RFI.
Et en marge de cette cérémonie, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui dit avoir parlé à son homologue français d'une possible aide accrue à Kiev. L'actualité en France est François Bayrou, interviewé pendant près de 2 heures hier soir sur LCI, finances publiques, loi sur la fin de vie, sécurité, immigration. Sur l'immigration, justement, le Premier ministre a écarté l'idée de l'organisation d'un référendum. Il évoque également le sentiment, je cite, d'une submersion migratoire en France dans un certain nombre de villes et de régions. Toujours en France, le Sénat ouvre la voie à la réintroduction des néonicotinoïdes très nocives pour les pollinisateurs, notamment les abeilles. La substance reste utilisée dans l'Union européenne, notamment pour la betterave et la noisette. La gauche a très vivement critiqué cette décision.
RFI 6h11 à Paris, le journal de Jeanne Bartoli et le football. Le match d'ouverture de la CAN 2025 est connu.
Et ce sera Maroc-Comores le dimanche 21 décembre. Décembre prochain au complexe Moulay Abdellah de Rabat. C'est le verdict du tirage au sort de la compétition hier soir dans la capitale marocaine. 11 mois donc avant le début de la compétition et parmi les 6 groupes, le groupe F sort du lot avec un choc Côte d'Ivoire-Cameroun. Babacar Diarra.
2 des 4 derniers vainqueurs de la CAN se croiseront dès la 2e journée de la phase de poule dans un groupe F où le Gabon et le Mozambique feront figure d'outsiders redoutables. Grands favoris devant leur public, les Lions de l'Atlas seront en plus des seuls à compte des Comores, 2 adversaires ambitieux dans le groupe A avec le Mali et la Zambie arrivés en tête dans leur phase éliminatoire. Le Sénégal en avait fait de même pour se qualifier pour sa 18e CAN, mais ce n'est pas le cas sur la route des qualifications en cours pour le Mondial 2026. La faute entre autres à la RD Congo qui se loge dans son groupe D avec le Bénin et le Botswana. Pour ce qui serait sa 5e CAN, Mohamed Salah aura dans le groupe B l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe comme premiers adversaires avec l'Égypte, que l'attaquant de Liverpool rêve enfin d'emmener vers un sacre continental. Grande affiche du groupe C, Nigeria-Tunisie contrastera avec le pédigré des autres nations de la poule, l'Ouganda et la Tanzanie, qui se jaugeront à 2 ans de leur CAN co-organisée avec le Kenya. Enfin, l'Algérie va faire émerger de mauvais souvenirs en défiant la Guinée équatoriale et le Burkina Faso, qui l'ont privé de 8e lors des 2 dernières CAN. Ce sera dans un groupe E, complété par le Soudan.
Babacar Diarra, enfant des sports à la culture et comment Robert Zimmerman est devenu Bob Dylan. Voilà le pari d'un biopic, un parfait inconnu du réalisateur James Mangold, avec comme titre rôle-titre pour le du musicien et poète, eh bien Timothée Chalamet, Sophie Torlotin.
T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi ?
Pour trouver l'inspiration.
Il débarque à New York en 1961 à 19 ans avec sa guitare sèche. L'inspiration, il va la trouver en se rendant au chevet du chanteur folk, son mentor Woody Guthrie. Il se présente comme Bobby Dylan, lui qui s'appelle en réalité Robert Zimmerman. Pete Seeger, joué dans le film par John Cusack, le prend sous son aile, le fait se produire dans les salles de Greenwich Village où il va croiser celle qui est une vedette, Joan Baez.
Elle est jolie. Elle chante joliment. Peut-être un peu trop joliment.
En 4 ans à peine, le jeune homme ambitieux devient une star, la voix d'une génération et d'une époque de lutte pour les droits civiques. Et pourtant, il refuse de se laisser enfermer dans une chapelle musicale. Rythmé au son des chansons de jeunesse de Dylan, ce biopic convaincant, porté par la performance de Timothée Chalamet, ne cherche donc pas à élucider le mystère. Bob Dylan, qui a toujours entretenu le flou entre son mythe et la réalité, demeure un parfait inconnu, a complete unknown. Known comme dans l'un de ses classiques, Like a Rolling Stone.
Et c'était Sophie Torlotin du service culture d'RFI.
Et Bob Dylan sera notre choix musical ce matin. Rendez-vous juste avant 9h. Merci Jeanne Bartoli. 6h14 à Paris, on est ensemble jusqu'à 9h. On va évidemment beaucoup revenir ce matin sur la situation en RDC, la grande ville de Goma, théâtre d'affrontement entre le M23 soutenu par le Rwanda et l'armée congolaise aidée de ses alliés. Situation confuse, inquiétante, les médecins pointent l'afflux de blessés.
Je tiens à signaler que toutes les blessures, en tout cas, sont des blessures par balle. Par exemple, il y a un bébé de 2 mois qui a été touché, il y a une adolescente aussi. L'un de nous, de nos camarades qui a été même touché, on vient à peine de le stabiliser. En tout cas, c'est catastrophique.
Un témoignage à écouter sur la longueur à 6h30 dans le prochain journal. La situation en RDC en une de nos différentes éditions ce matin. On en parle aussi avec notre invité Afrique ce mardi, Christophe Lutundula, ancien vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Congo. Autre invité de notre matinée, l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Rendez-vous à 7h20, heure de Paris. Également au programme aujourd'hui, les États-Unis, le Proche-Orient et le retour des Gazaouis du nord de l'enclave chez eux après 15 mois de guerre.
Tous les mots de la langue arabe ne suffiraient pas à exprimer ce que je ressens. Nous revenons à Gaza. Jamais nous ne renoncerons à notre terre. Le peuple palestinien a le droit de vivre ici, sur la terre de ses ancêtres. La terre du peuple palestinien.
Un reportage à écouter à 8h, tout cela et bien plus encore. C'est RFI Matin, bienvenue si vous nous rejoignez. Et on commence tout de suite avec cette décision de Taïwan de placer sur liste noire plus de 50 navires chinois soupçonnés de menacer la sécurité de son réseau de câbles sous-marins, des câbles essentiels par lesquels passent nombre d'informations, de données parfois confidentielles, et depuis quelques mois cible tout autour du monde d'attaques et de pressions diverses. Pour en parler, on est en ligne avec notre correspondant à Taïwan. Bonjour Jules Bois.
Bonjour Antoine Mellard.
Jules, la particularité de ces bateaux, hein, c'est qu'ils naviguent dans le détroit de Taïwan sous pavillon étranger pour échapper aux régulations internationales.
Absolument. Bien que ces navires soient chinois, ils naviguent tous sous drapeau étranger. Drapeau camerounais, togolais, tanzanien ou encore mongol, dans la liste des navires identifiés par les gardes-côtes taïwanais comme une potentielle menace, aucun de ces navires ne navigue avec le drapeau de leur pays d'origine, la Chine. Alors ce que craignent les autorités taïwanaises avec ces navires difficilement identifiables et peu contrôlés, c'est que leur objectif soit d'endommager le réseau de câbles internet sous-marins. Le dernier incident en date, c'est début janvier, un navire sous drapeau camerounais, détenu en réalité par une compagnie hongkongaise dont le patron est chinois, est accusé d'avoir endommagé volontairement des câbles au nord de Taïwan en raclant les fonds marins à l'aide de son ancre.
Alors pourquoi, Jules, ces navires chinois naviguent-ils sous drapeau étranger ?
Parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle des pavillons de complaisance. Les armateurs chinois immatriculent légalement leurs bateaux dans un pays étranger, avec l'accord de ce dernier bien sûr, et contre rémunération. Pourquoi ? Pour échapper aux régulations internationales. Les réglementations des pays dans lesquels ces navires chinois s'identifient ne sont pas contraignantes. Peu, voire aucun contrôle de sécurité, pas de régulation environnementale, des avantages fiscaux, un anonymat relatif, les avantages sont vraiment nombreux. De plus en plus de pays utilisent ces pavillons de complaisance pour esquiver les réglementations maritimes. C'est le cas notamment de la Russie, qui s'en sert pour échapper aux sanctions économiques après le début de la guerre en Ukraine, mais aussi de plus en plus de la Chine. Pékin se sert de ces navires pour la pêche illégale, par exemple, ou pour grignoter le territoire maritime de ses voisins, mais également plus récemment pour des opérations de sabotage.
Et pourquoi s'attaquer à ces réseaux de câbles sous-marins en particulier ?
Ce qu'il faut savoir, c'est que le réseau Internet mondial passe en grande partie via des câbles sous-marins. Et c'est bien sûr le cas de Taïwan, qui dépend quasi exclusivement de ces câbles pour assurer sa connexion à Internet. Les communications militaires, les données financières, gouvernementales, et bien sûr l'utilisation quotidienne d'Internet par les Taïwanais, tout se passe par ces câbles qui sont d'une importance majeure pour la sécurité de l'île. Mais ils sont aussi très vulnérables. La Chine, qui menace de prendre le contrôle de l'île par la force, pourrait décider de s'attaquer à son réseau Internet pour couper tout lien entre Taïwan et le reste du monde. Et ces craintes ne sont pas infondées, en témoignent justement ces récents sabotages de navires chinois sous pavillon étranger. Pour se protéger, Taïwan compte bien surveiller de près ses navires, mais essaie également de moins dépendre de ses câbles sous-marins avec la mise en place d'un réseau Internet par satellite qui serait bien moins vulnérable à de potentielles attaques en cas de conflit ouvert avec la Chine.
Merci Jules Bois, en direct avec nous de Taïwan ce matin. Ce sujet des câbles sous-marins, on y revient dans moins d'une heure dans notre rendez-vous. Aujourd'hui, l'économie avec Stéphane Genest. Et juste après, à 7h20, ce sera notre grand invité international, l'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Il était en poste en 2020, entre 2020 et 2024 avant de démissionner. Et avec Anastasia Becchio, il s'exprime sur les perspectives de paix en Ukraine, l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche. Dmytro Kouleba qui évoque aussi avec nous l'origine de ce conflit qui va bientôt passer le cap des 3 ans, mais aussi sur l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN.
Tant que l'Ukraine ne fera pas partie d'un mécanisme de sécurité collective tel que l'OTAN, une prochaine guerre éclatera dans quelques années. Poutine lutte contre l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, non pas parce qu'elle représente une menace pour la Russie, mais parce qu'il veut que l'Ukraine reste exposée et vulnérable à son agression, parce qu'il n'abandonnera jamais l'idée de détruire l'Ukraine en tant qu'État. Il est obsédé par cette idée, et c'est son objectif. L'OTAN est donc le seul moyen de s'assurer qu'il n'y aura pas de nouvelle guerre entre l'Ukraine et la Russie.
Entretien à suivre tout à l'heure à 6h20, temps universel. En France, plus de 2000 enfants vivent dans la rue. Pourtant, l'État a la charge d'assurer à toute personne sans abri et vulnérable un hébergement d'urgence. À Paris, maître Samy Djemaoun, passe ses semaines à défendre devant la justice des familles avec enfants à la rue et principalement des familles demandeuses d'asile. Le temps de la procédure, l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est pourtant censé leur fournir une allocation journalière et un logement, mais faut-il encore que ces familles connaissent leurs droit. Marie Cazadebé a suivi cette avocate dans l'une de ses nombreuses affaires devant le tribunal administratif de Paris.
Sûrement vous vous posez la question, parce qu'en fait on vous a convoqué une première fois.
Dans une petite salle d'audience mal éclairée, Samy Djemaoun donne ses derniers conseils à ses clients. Les parents de la petite Khadija viennent du nord de la Côte d'Ivoire.
J'ai demandé l'asile avec l'enfant, parce que moi j'ai été excisée. La douleur que j'ai subie, je ne veux pas que ma fille Khadija aussi...
On a demandé l'asile depuis en avril. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'hébergement. Et c'est tout récemment, en échangeant avec une amie. Et que...
Elle a dit que non, tu as le droit, puisque vous avez un enfant malade et elle a une pathologie très grave, qui est la drépanocytose.
Cette amie leur conseille donc d'appeler maître Djemaoun. 10 jours après, ils se retrouvent au tribunal.
Ouais, ils ouvrent une salle, c'est ça ?
Oui.
Et après...
En moins de 3 ans, Samy Djemaoun a saisi près de 80 fois la justice pour contraindre l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à loger des familles à la rue. L'avocat a gagné près de 70 fois. Comme souvent, l'administration a fait parvenir au tribunal un mémoire en défense, un texte expliquant sa position.
Vous avez un certificat médical qui indique que le pronostic vital de l'enfant peut être engagé à tout moment et qu'elle a besoin d'un endroit sain et stable. Et l'OFI nous dit qu'elle a un traitement et un suivi médical, c'est bon. Tout en reconnaissant, dans le mémoire en défense, qu'elle fait partie des familles les plus prioritaires. Une famille prioritaire, c'est une famille avec des enfants, point. On ne va pas commencer à faire une hiérarchisation de la détresse.
Ce qu'on vous oppose aussi, c'est un dispositif saturé.
Mais en tout cas, les familles sont in fine hébergées. Donc ça veut dire que l'argument de la saturation que l'OFI oppose, il doit céder devant la vulnérabilité des personnes.
L'audience n'aura duré qu'une petite demi-heure. Hasard du calendrier, ce même jour, l'avocat apprend que la petite Khadija obtient le statut de réfugié. Un soulagement pour ses parents, mais aussi beaucoup d'amertume.
Il a tellement perdu le temps durant tous ces temps-là. C'est la débrouille. C'est de l'association en association. S'il y a un logement, ça va.
Merci. Au revoir. Merci pour le café.
L'OFI est condamné. 3 jours après, la famille obtient les clés d'un logement. Impossible de savoir combien d'autres sont à la rue faute d'informations sur leurs droits. Pour l'avocat, l'administration compte là-dessus.
Ils se diront sur 100 personnes, maître Djemaoun, il va saisir pour 20, parce qu'il n'y aura que 20 qui auront eu accès à des associations, à tout un tas de dispositifs d'aide juridique. Et s'ils sont condamnés sur les 20, ils se disent, c'est pas si mal que ça.
L'OFI, contacté par téléphone, affirme que le couple avait signalé être hébergé de façon précaire chez un ami, raison pour laquelle aucune proposition ne lui a été faite. Son directeur, Didier Lesky, assure qu'un signalement de la part de la famille aurait suffi à son hébergement.
Un reportage de Marie Cazadebé, 6h23 à Paris.
RFI Matin.
Notre question d'environnement ce matin, faut-il fertiliser les forêts pour accélérer leur croissance et ainsi augmenter leur capacité d'absorption du CO2 ? Une idée envisagée en Suède, car les forêts suédoises, comme celles de nombreux pays européens, absorbent de moins en moins de CO2. Or, la politique menée en Suède a fait grimper les émissions de gaz à effet de serre, ce qui oblige le pays à séquestrer davantage de carbone pour compenser. Bonjour Igor Strauss.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Alors d'abord, comment expliquer que les forêts suédoises absorbent moins de CO2 ?
Eh bien, selon les statistiques de l'Agence suédoise de protection de l'environnement, les forêts suédoises ont absorbé 31 millions de tonnes de CO2 en 2023, alors que la moyenne était de 52 millions de tonnes annuelles 10 ans auparavant. Et les causes, Andréane, eh bien, elles sont connues et identifiées, selon Alain Carsenti, un spécialiste des forêts au CIRAD.
Les forêts sont des puits de carbone. Tant qu'elles sont en croissance, et pour que leur croissance soit importante, il faut qu'elles aient de l'eau, qu'elles aient un certain nombre de conditions. Ce qui se passe en Suède, comme ce qui se passe en France, c'est que on a eu des sécheresses, donc elles poussent moins vite, donc elles absorbent moins. Il y a eu des attaques de pathogènes, des scolytes, qui sont des insectes ravageurs à peu près dans toute l'Europe du Nord. Donc ça veut dire qu'il y a une mortalité accrue des arbres. Mortalité des arbres, c'est-à-dire que des arbres qui n'absorbent plus parce qu'ils meurent. Donc on a quand même un stock qui diminue, moins de couverts forestiers, et donc moins d'absorption.
Autre explication, la Suède pratique une sylviculture intensive. Ces dernières années, la quantité d'arbres abattus dans le pays a atteint des records favorisés par la hausse du prix du bois. Mais les coupes rases réalisées diminuent également les capacités d'absorption de la forêt. Malgré les critiques des scientifiques et des ONG environnementales, la majorité au pouvoir n'entend pas changer de modèle d'exploitation de sa forêt. Elle mise donc sur la fertilisation.
Mais du coup, est-ce que fertiliser les forêts, c'est une solution pérenne ?
Eh bien non, sur le court terme, ça peut effectivement augmenter les capacités d'absorption de la forêt. Mais sur le long terme, eh bien c'est une catastrophe, selon Alain Carcenti du CIRAD.
Fertiliser les arbres, ça veut dire, d'une certaine manière, les rendre paresseux. C'est-à-dire, au fond, qu'ils auront beaucoup moins besoin de développer en profondeur leur système racinaire pour aller chercher les nutriments indispensables à leur croissance. Donc, ils vont plutôt se développer par le haut et beaucoup moins au niveau des racines. Ce qui fait que ces arbres seront beaucoup moins équipés d'une certaine manière pour résister aux sécheresses. Ce qui veut dire que cette idée qu'on peut ne pas réduire les émissions dans le secteur industriel des transports et autres en comptant sur les forêts est une idée qui n'est pas viable. C'est surtout ça la principale leçon qu'il faut retenir.
Et fertiliser les forêts les rend donc moins résilientes au changement climatique.
Exactement. Et comme les phénomènes climatiques extrêmes, comme les sécheresses, vont être de plus en plus fréquents, eh bien cela risque de fragiliser davantage les forêts. Miser sur le pouvoir d'absorption des arbres sans s'attaquer aux causes du réchauffement climatique, dans l'industrie, les transports, est donc aberrant et contre-productif. N'oublions pas qu'une forêt victime de sécheresse, de maladies ou de surexploitation peut devenir une source d'émissions nettes de gaz à effet de serre, soit l'exact opposé de ce qui est recherché par le pouvoir en Suède.
Igor Strauss pour la question d'environnement sur RFI. Avant le journal, un petit passage par notre playlist de ce mois-ci. Ce matin, le titre « Propaganda » par Blaise Faya.
See me do it from the one look how many girl we get. Batman chat a million dollar we get. Bring it by anywhere we go, some way we dead. Yeah, we killing, yeah, we killing, yeah, we killing night and day. Guess who run the place, girl, I'm winning balance. Up, 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 show me your bad guy's talent. We never know, but tomorrow we live life like a bit, bit. Watch me chilling in a shadow, flying like a jet.
Propaganda, propaganda, propaganda. Anywhere we go, propaganda. Shatter, we got back it up and bend down. Shatter, wine and galanda. Propaganda, propaganda, propaganda. Anywhere we go, propaganda. Shatter, we got back it up and bend down. Shatter, wine and galanda.
I do it, cause I love it. All out, yeah. We meet the bad girl and back shatter, yeah. I do it, cause I love it. All out, yeah. She make that thing hotter, yeah. Me not talk but now the shutter rising on your city. Real fuck, real talk, only reality. Pretty girl, I come to give me one at top quality. Walking alone, I do my thing on the committee.
I do it, cause I love it. All out, yeah. We meet the bad girl, I back shutter, yeah. I do it, cause I love it. All out, yeah. Born, she make that thing hotter, yeah. Propaganda, propaganda, propaganda. Anywhere we go, propaganda. Shutter, we got back it up and bend down.
Propaganda par Blaise Faya, c'est sur notre playlist RFI. Ce mois-ci, rendez-vous sur toutes les plateformes d'écoute. Vous restez avec nous dans une minute. L'information africaine et Goma à la une.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
situation des urgences en France, une crise qui n'en finit pas.
Demain,
la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises douloureuses.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix,
Pascal Paradon.
Disparu prématurément il y a 30 ans, Jean-Luc Lagarce est l'un des auteurs du théâtre français le plus doué, le plus joué. Pour cet anniversaire, Joanny Berthe recrée Juste la fin du monde, sa pièce culte, un huis clos familial fait de silence et de noms